constat par local, de l'élixir et du flacon, du contenu et du contenu. Non.
Radio Campus.
Non, je vous en parle parce qu'on vit un tournant capital de notre histoire. Une nouvelle ère. On entre dans une époque charnière.
Vraiment?
Ouais. C'est passionnant.
88.3.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État toujours déclenché au palais de la sécurité.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de cash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bonsoir et bienvenue à vous sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours pour un bâton rompu tous les mardis entre 19 et 20 heures. Une heure de magazine d'infos autour d'actualité. Notamment, ce soir, nous allons parler de la prochaine session plénière des élus de la région Centre-Val-de-Loire et parler surtout de cette adoption jeudi prochain d'une convention de partenariat entre la région Centre-Val-de-Loire et une association de médecins solidaires, ça s'appelle, des médecins comme on en voudrait, vraiment. Le président de la région, monsieur François Bonneau, pardon, sera dans l'émission pour en parler à bâton rompu avec Asma ce soir. Bonsoir Asma. Est-ce que je t'entends? Oui, mais enfin, je... Vas-y. Oui, là, je t'entends mieux.
Bonsoir Asma. Bonsoir à tous. Mais bonsoir. Oui,
j'avais oublié de démuter. C'est tous les mardis. Hein. Et une nouvelle venue, Marine. Bonsoir Marine. Est-ce que tu as un micro? Oui, mets-toi devant un micro.
Bonsoir.
Marine est une étudiante qui veut faire du journalisme. Elle a participé tout à l'heure avec moi l'interview avec Mourad qu'on écoutera dans un instant. Donc, outre la région centre, nous allons parler avec toi, Asma.
Moi, je vais vous parler de deux documentaires qui passent actuellement au cinéma des Carmes à Orléans. Documentaire de Nicolas Philibert. Éminent documentariste qui a beaucoup filmé la psychiatrie.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, moi je connais de nom, deux, trois trucs, mais tu nous expliqueras.
Voilà, absolument.
Et puis, pardon, Steven n'est pas là, mais Steven est allé voir une pièce de théâtre sur Gisèle Halimi. C'était la semaine dernière. Si on a le temps en fin d'émission, on passera son reportage. À bâton rompu, calez-vous, c'est parti.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Mourad Guichard au téléphone en début d'émission, vous le savez. Mourad Guichard, journaliste indépendant pour le décryptage de quelques faits d'actualité ou de critiques des médias. Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hassan.
Premier sujet, un papier dans Mediapart. Il y a une semaine, nous apprend que Pascal Pro, le présentateur de CNews, j'ai pas envie de l'appeler journaliste, qui s'était fait une spécialité hein, de donner des noms des gens dans ses émissions, va peut-être passer au tribunal au mois de juin prochain pour diffamation. Et c'est une histoire
oui,
dont on a beaucoup
c'est...
parlé ici. Hein. On en a parlé ici suite à un papier, un de tes papiers dans le Canard enchaîné. Rappelle-nous l'histoire.
Oui, tout est parti d'une brève en fait que j'avais fait pour le Canard Enchaîné il y a quelques temps de ça, je crois qu'il y a 2 ans, avant les fêtes de Jeanne d'Arc, puisque France 3 avait accepté un espèce de publi-reportage sur Jeanne d'Arc, parce qu'il y a, à cause du Covid notamment, on ne pouvait pas accueillir de public, et donc ils avaient proposé gratuitement un documentaire qu'ils avaient payé, je crois, quelque chose comme 20 000 euros. Mais à la gloire totale et absolue, évidemment, sans contradiction, des fêtes de Jeanne d'Arc et de la municipalité, mais surtout commenté par Charlotte Dornelas, qui n'est autre que la collègue d'ailleurs de Pascal Praud. Alors Jean-Jacques Bazier, à l'époque le directeur de l'antenne, avait aussitôt, dès que l'avait appelé, avait aussitôt réalisé l'ampleur des dégâts et avait évidemment déprogrammé ce fameux documentaire, ce qui avait provoqué la rage de Pascal Praud, mais aussi de Serge Grouard qui était sur le plateau avec lui, et ils se sont mis à plusieurs reprises et de manière volontariste, voire militante, ils se sont mis à prononcer son nom de façon à ce qu'on l'identifie parfaitement, et évidemment il a reçu des insultes, des menaces de mort. Cette affaire est montée jusqu'à l'Assemblée nationale où son nom a été également cité, et donc très logiquement il a... À un moment, on s'interrogeait de savoir s'il allait avoir ou pas une protection policière. Ça s'est monté très, très haut. Et donc, évidemment, c'est l'extrême droite qui était aux commandes. Et donc là, logiquement, il va y avoir un procès sur cette affaire qui vraiment avait pris localement, hein, notamment, des proportions absolument extraordinaires.
Tout à fait, oui. C'est très vite. Hein, là, bientôt, c'est au mois de juin, hein, c'est ça?
Absolument, c'est d'ici à l'été, oui.
Bon. Deuxième sujet, à Orléans, les fêtes de Jeanne d'Arc, c'est bientôt également. L'un des deux adolescents qui devait incarner un page de Jeanne d'Arc à ces fêtes a été écarté pour avoir participé à la diffusion d'idées, dit le communiqué que nous avons reçu de la mairie, contraire aux valeurs de la République.
Oui, alors il aurait peut-être fallu s'en apercevoir avant et qu'à force, normalement, vous savez, tous les ans, il y a un espèce de balancier qui est officieux, mais qui devait normalement aller piocher dans une école publique, puis piocher l'année suivante dans une école privée. Maintenant, on ne fait plus quasiment que du privé, et puis pas n'importe quel privé, hein, c'est souvent du Saint-Charles. Et donc, on a potentiellement des profils problématiques comme celui-ci. Il y a des années comme ça, je me rappelle, hein, j'avais écrit moi notamment sur des propos homophobes au moment du mariage pour tous. Enfin, il y avait toute une série, c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de dérapage. Et là, la mairie a sorti un communiqué. Alors, c'est bien qu'ils aient réagi comme ça.
Hein, mais tu as le fond de l'affaire ou pas? Parce que moi, j'ai reçu ce communiqué, je me disais, mais oh, bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais comme toi, pourquoi ils n'ont pas enquêté avant? Qu'est-ce qui se passe?
Tout à fait. Parce qu'il aura fallu une fois de plus le travail de journalistes et de l'association du collectif Antifa d'Orléans pour débusquer très facilement. D'ailleurs, en plus, c'est ça le pire. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé, je dis juste que c'est franchement, avec le patronyme, on retrouvait assez facilement, si tant est qu'on se penche dessus, on retrouvait assez facilement effectivement des traces problématiques. Et donc, c'est suite à l'enquête, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas griller les personnes,
bien sûr, évidemment.
Mais suite à l'enquête, en fait, la mairie a réalisé l'ampleur des dégâts une fois de plus et donc a pris les devants et a envoyé un communiqué qui pourrait laisser penser que c'est la mairie qui soudainement se met comme ça d'un coup un matin en se levant à réaliser que le fascisme c'est pas bien. Bah non, en fait ils ont été contraints de le faire pour anticiper évidemment au dernier moment d'avoir à le retirer, à le changer. Alors c'est pas très sympa pour le nouveau page parce que du coup il est un peu là par défaut, mais enfin bon, voilà, je pense qu'il accepte quand même de bon cœur, mais voilà, donc c'est pas du tout une initiative de la mairie, ce qui aurait été très 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 surprenant, mais c'était évidemment sous la pression et médiatique et associative et militante que la mairie a fait enfin machine arrière.
Un dernier sujet, Mourad. Conseil municipal chahuté hier, un conseil municipal dont le principal sujet à l'ordre du jour était la politique culturelle de la ville, mais lors de la discussion sur le vote des subventions aux associations, ça s'est enflammé. À propos de l'association Orléans-Caen, association étudiante qui organise des événements liés à la pratique des arts oratoires. Au mois de mars dernier, Orléans-Caen avait organisé à la fac de droit une simulation parlementaire avec la participation du Rassemblement national de la jeunesse. Relevé par Baptiste Chapuis, conseiller municipal d'opposition, puis par le collectif Antifa, l'événement avait fait du bruit ces derniers jours. Et hier, lors du conseil municipal, Orléans-Caen a reçu le soutien d'élus de la majorité, à commencer par Fanny Picard, conseillère municipale déléguée à la vie étudiante.
Oui, merci monsieur le maire. Parmi les différentes subventions votées à destination des associations, l'une d'elles me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'association d'Orléans-Caen. Cette association, dans la suite de la mission d'apprentissage de la langue et de l'écrit du français, mission de l'État, apprend aux étudiants qui le désirent à se former pour débattre, plaider, s'exprimer en public. Également, cette association propose de procéder à des reconstitutions de débats célèbres ou fictifs, qu'ils soient parlementaires ou devant des juridictions. Suite à la représentation d'un débat parlementaire le 19 mars dernier, un groupe fictif, l'Union nationale patriote, devait défendre un projet de loi. Je rappelle que cela était fictif. Toutes ces heures de travail ont été saluées par un élu de notre Assemblée, sur ses réseaux sociaux personnels, l'élu qui a assimilé le travail de cette association à un tremplin pour l'extrême droite. Les propos de notre collègue ont été repris par les jeunes socialistes du Loiret, qui ont rédigé un communiqué de presse et par d'autres courants plus extrêmes et plus violents. Cette situation a soulevé deux problèmes majeurs. D'une part, les bénévoles de l'association ont ressenti un énorme malaise, car ils ne s'attendaient pas à être mis en porte-à-faux. Nombreux sont les bénévoles qui ont quitté les rangs, dégoûtés d'avoir donné de leur temps pour finalement être confondus avec l'extrême droite. L'un d'entre eux a même subi des pressions sur les réseaux sociaux et alors qu'il se promenait en ville, a fini par démissionner de ses fonctions alors même qu'il n'avait pas participé à l'organisation de l'événement. J'ose espérer que ces tentatives d'intimidation seront tout de même condamnées par nos collègues. D'autre part, cette situation est très révélatrice d'une tentative d'aseptisation du débat public. On ne veut pas entendre le message de l'extrême droite, donc on le bâillonne. Il me semble que cela est contradictoire avec l'une des valeurs fondamentales de notre pays, la liberté d'expression. N'en déplaise à ces bien-pensants, oui, le message porté par l'extrême droite doit être exprimé et entendu au nom de la liberté d'expression. Et c'est ainsi que les contradicteurs de l'extrême droite doivent lutter sur le terrain des idées.
Gauthier Tabou, conseiller délégué aux solidarités, a lui aussi visé directement Baptiste Chapuis. Écoutez-le et écoutez la réponse de ce dernier.
Je voudrais m'associer aux mots de ma collègue Fanny Picard et ici apporter mon soutien plein et entier à l'association Orléans-Cance. Ils ont été victimes d'un clouage au pilori en bonne et due forme avec une action d'irresponsabilité politique de la part d'un représentant théoriquement des Orléanais qui les a tout bonnement lynchés, ou en tout cas incités à se faire lyncher par des associations d'extrême gauche qui ont ensuite pris un malin plaisir à venir les harceler et les menacer effectivement de violence. Depuis des années, on a voulu censurer, on continue de vouloir censurer certaines idées, certaines thématiques qui pourtant sont majeures. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a une extrême droite qui monte. Parce qu'on a voulu justement cacher un certain nombre de sujets qui sont pourtant fondamentaux et sur lesquels il doit y avoir une action menée.
Monsieur Chapuis. Bon, monsieur le maire, chers collègues, j'avais clairement pas envisagé d'intervenir sur le sujet ce soir, mais vu les attaques ad nominem de monsieur Dabou, que j'espère que vous retirerez, je ne suis pas théoriquement représentant des Orléanais. Je suis comme vous, monsieur, élu par les Orléanais. Certes, peut-être pas les mêmes Orléanais, c'est vrai. Mais je suis représentant, comme vous, du conseil municipal. Et vous ne pouvez pas me retirer ce droit de représenter les Orléanais, comme vous venez de le faire à l'instant. Sur le fond de l'histoire, je ne suis intervenu pas en amont de l'événement. Je n'ai pas demandé à censurer cet événement. Alors ça, c'est la caricature que vous souhaitez en faire. Je ne suis pas intervenu avant l'événement. J'ai réagi après cet événement. Pourquoi ? Parce que, comme on en parle ce soir, le Rassemblement national s'est revendiqué de cet événement, a revendiqué le fait qu'il a pu librement défendre ses positions sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, sans aucune contradiction. Sur cette association, je me suis exprimé, je l'ai dit, en effet, et le communiqué a été quand même assez clair de l'association, et peut-être plus mesuré que vos propos, en expliquant qu'ils ont été instrumentalisés. Et ils l'ont reconnu, et une fois qu'ils ont reconnu cette instrumentalisation, je n'ai plus réagi sur ce sujet-là. Je n'ai rien dit sur les événements qui ont été organisés après. Vous avez souhaité en faire un sujet politique et pouvoir le mettre au sein du conseil municipal. Je pense que ce n'était pas le lieu.
Le groupe de Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et le groupe d'opposition a demandé une suspension de séance. Au retour de la suspension de séance, a demandé le groupe de rencontrer le maire d'Orléans pour pouvoir parler du déroulement normal, démocratique, d'un conseil municipal. Refus du maire. Mourad, quelle analyse tu fais sur ces événements, sur cet événement ?
Bah, moi, je trouve qu'ils sont excessivement gonflés. Alors, ce qu'on n'entend pas, mais on peut aller le voir sur la chaîne YouTube de la mairie, hein, le conseil municipal d'Orléans, c'est la réponse complètement lunaire, digne des meilleures heures ou des pires heures du Sergio Comedy Club, puisqu'en fait le maire va développer une espèce de rhétorique disant à Baptiste Chaput, qui a tout à fait le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est tant que ça reste dans les limites évidemment de la loi, il a tout à fait le droit, qui peut l'empêcher, qui peut le censurer, c'est complètement délirant. Il a développé donc une espèce de rhétorique en disant, mais monsieur Chaput, vous vous honoreriez à reconnaître que vous avez fait une erreur, mais moi aussi il m'arrivait de dire des erreurs, et des erreurs connu, donc vraiment, mais j'ai sur un ton paternaliste.
J'ai l'extrait, est-ce que tu veux qu'on l'écoute avant de continuer ou pas?
Je propose qu'on en mette quelques secondes, oui, pour qu'on comprenne le ton.
Est-ce que ce qui a été dit par Madame Picard, Monsieur Dabou ou Monsieur Montillo serait erroné? Non, puisque les propos, alors écoutez, j'ai seul la parole pour l'instant, si vous le voulez bien, d'accord? Bon. Effectivement, je crains que vous n'aimiez pas le débat. En tout cas, lorsque vous êtes en mauvaise posture, ce qui arrive relativement souvent.
Bon.
Est-ce que quelqu'un remet en cause les citations qui ont été données par M. Montillo? Ah non. Bah non, ce sont des citations. Voilà, ce sont des extraits avec des guillemets. Donc c'est parfaitement clair. Ce qui me gêne beaucoup dans tout cela, voyez-vous, vous ne débattez plus, vous accusez en permanence. C'est régulier. Ah, parce que ça vous ennuie. Mais c'est fait dans une enceinte de débat. Mais ça vous ennuie. Parce que quand on vous porte la réplique, ça vous gêne. Surtout lorsque vous avez dit un certain nombre de choses qui sont critiquables. Bon, alors moi je vous dis, moi je suis très tolérant. Je suis très tolérant. J'admets tout à fait qu'on puisse faire erreur. J'admets tout à fait que on puisse regretter même certains de ses propos. Nous sommes dans une société où le débat est de moins en moins présent et les attaques personnelles de plus en plus fortes. Où l'on est dans la vindicte, y compris et notamment sur les réseaux sociaux. On est sur la dénonciation. Et tout cela, tous ces mots, ils ont des conséquences, ils ne sont pas neutres. Au pire, ils entraînent de la violence. Et c'est malheureusement souvent le cas.
Voilà. Serge Grouard et sa nouvelle lutte contre les réseaux sociaux, moi, dont on a déjà parlé la semaine dernière.
Ah bah oui, surtout contre la dénonciation de gens. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Il y a quelques minutes, nous parlions de Jean-Jacques Bazier menacé de mort suite aux propos tenus par Pro et Grouard sur le plateau. Mais il ne faut pas oublier que c'est Serge Grouard, en postant sur les réseaux sociaux la lettre qu'il avait adressée au directeur de France 3, où apparaissent nommément les noms de deux cadres, dont le directeur, c'est lui qui a posté le premier et qui a balancé en pâture le nom de Jean-Jacques Bazier. C'est pas pro en fait dans la chronologie, donc c'est un peu gonflé de venir dire ça. Et alors concernant les deux extraits précédents, celui de Gauthier Dabou et Fanny Picard, j'aurais aimé qu'ils fassent preuve de la même verve, qu'ils aient le même élan et les mêmes jeux de manchettes lorsque leur petit copain de jeu Romain Roy avait posté à propos de Jean-Luc Mélenchon, ouvrez les guillemets, on en a déjà parlé ici, hein, oui. Mais ouvrez les guillemets, cracher 50 années sur les curés pour finir par sucer de l'imam le destin tragique du gauchiste. Oui. Voilà, ça a été posté par Romain Roy, il a dit que c'était pas lui, que c'était un pirate. Alors le pirate, c'était moi aussi, hein. Il m'avait accusé d'avoir piraté son compteur. Enfin, je serais bien incapable de faire ça. Il a donc déposé plainte. Et oh là là, surprise, la police a classé évidemment cette affaire sans suite, puisque évidemment, il n'y avait pas de pirate, sauf peut-être dans le corridor des pensées un peu confuses de Romain Roy. Mais donc, alors, eux qui participaient, on a les captures d'écran, à cette discussion autour de ce tweet, je veux dire, auraient dû s'indigner, auraient dû réagir de la même manière. Donc le côté indignation est vraiment à géométrie variable. Je vous rappelle qu'on est et parler de censure est complètement délirant. On est dans la ville où il y a eu l'affaire Fan Solo, qui est allé jusqu'à la Cour de cassation, ce fameux blogueur qui s'était moqué gentiment sur son blog au moment de la campagne de 2008, je crois, s'était moqué des soutiens de Serge Grouard et que Serge Grouard, malgré qu'il ait gagné, l'avait attaqué l'avait attaqué en justice, l'avait traîné en justice jusqu'à la Cour de cassation, et la Cour de cassation avait donné raison à Fan Solo au nom de la liberté d'expression notamment et du droit de la presse. Donc c'est voilà, ce ne sont que deux affaires, trois affaires puisqu'il y a celle de Jeanne d'Arc et de Bazier. Je trouve ça un petit peu gonflé. L'argument de Fanny Picard en disant que c'était quelque chose de fictif, bah oui, enfin les rassemblements néo-nazis. Place du Mar 3, au moment des fêtes Jeanne d'Arc d'il y a quelques années, c'était aussi fictif. Hein. On se baladait avec des croix gammées, des tambours avec des oriflammes. Enfin bon, c'était fictif. Mais en quoi le côté fictif change la donne sur le message envoyé? Rien du tout. Il faut un tout petit peu assumer sa proximité avec l'extrême droite. C'est ce que font ces deux élus. Hein. Ils disent que l'extrême droite a le droit de s'exprimer au nom de la liberté d'expression.
Alors, c'est exactement ça.
Sauf qu'on n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas d'amendement. Il n'y a pas de choses qui permettent une totale liberté d'expression. Il y a des lois. Le racisme est un délit. L'antisémitisme est un délit. L'appel à la haine est un délit. Donc voilà, il faut remplacer les choses. Là où elles doivent l'être. Et je trouve que surjouer cette espèce d'indignation de la part des élus de la majorité. Alors, le maire, vous l'avez entendu, alterne agressivité et paternalisme avec une espèce un côté hautain qui est complètement insupportable. Moi, je comprends tout à fait que les élus de l'opposition aient quitté la séance sur ces accusations graves, parce que ça sous-entendrait que, par exemple, Baptiste Chappie, pour le citer, n'aurait pas le droit, en dehors de l'enceinte du conseil municipal, n'aurait pas le droit de s'exprimer, parce que c'est complètement délirant. Il a tout à fait le droit de s'exprimer, et je ne peux que lui apporter mon soutien, parce que là il a été victime d'une espèce de mise en scène complètement prémâchée, et qui me semble surjouée par rapport à la réalité des remarques qu'avait fait, on le retrouve sur son compte Twitter d'ailleurs, les remarques qu'avait fait Baptiste Chappie sur ce fameux événement d'éloquence.
Tout à fait. Et le groupe du Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes a envoyé un communiqué pour expliquer ce qui s'est passé. Comme tu le disais tout à l'heure, on peut retrouver tous ces échanges sur la page YouTube de Orléans Métropole. Et le maire d'Orléans citait également Monsieur Montillo, qui est le premier maire adjoint, qui aussi a pris la parole et qui a fait aussi un petit peu de paternalisme. Alors, Mourad, on va se quitter.
Oui, alors j'ai un petit message un petit message à propos de Florent Montillo. Je l'invite quand même, parce qu'il a cité Voltaire.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Je l'invite quand même à aller vérifier l'origine de cette citation que l'on prête à Voltaire. Et il y a un débat là-dessus entre historiens de la littérature. Je ne pourrais que lui conseiller de faire attention quand on cite quelqu'un, de vraiment vérifier que c'est bien une citation qui provient de l'auteur cité.
J'y ai pensé aussi en écoutant ça. On va se quitter, Mourad, avec ce qui va se passer pour toi, le média. C'est enregistré, c'est demain, c'est diffusé.
C'est dans la boîte, c'est demain à partir normalement de 20h30 sur la chaîne du Média, la chaîne 350, ou sur la chaîne YouTube qu'on retrouve sur YouTube, le Média, en tapant le Média TV. Et donc on retrouvera un nouvel opus de cette critique média qui portera cette fois-ci sur un sujet complexe qui est celui de Rachel Kahn, de son parcours et de sa légitimité à prendre la parole sur à peu près tout et voilà. N'importe quoi.
Légitimité donc. Allez, comment on dit non, je passe ça donc. Légitimité de Rachel Kahn. Ben écoute, on t'embrasse, on revient avec toi la semaine prochaine. Belle semaine à toi, Mourad.
Oui, belle semaine à vous, et puis j'en profite pour saluer confraternellement, de manière avancée, les deux jeunes qui sont dans ton studio, puisque je crois qu'au moins l'une des deux aspire à devenir journaliste.
Oui,
donc je leur souhaite bon courage et bonne chance dans leur parcours.
On va lui donner le micro tout à l'heure, elle est trop loin du micro. Si tu veux faire journaliste, tu prends le micro, tu avales le micro, dis bon. Est-ce que tu m'entends? Par contre, moi, je ne t'entends pas. Voilà, vas-y.
Merci beaucoup pour le soutien.
Et ton prénom?
Non, je t'en prie.
Marine.
Marine, voilà. On est aussi avec...
Bienvenue au club, Marine.
Merci.
J'espère te croiser professionnellement très prochainement.
Ouais. Merci bien.
Okay. Et il y a Ferrat, hein, c'est ça?
Félat,
ouais, qui nous vient...
Félat également, bien évidemment, et j'espère avoir l'occasion un jour de revenir, parce que c'est vrai que les enregistrements se font à Paris pour le Média TV, donc j'espère vraiment revenir en studio et enfin vous croiser, puisque chaque fois, Hassan me dit le plus grand bien de ses invités.
Voilà. À très bientôt, à la semaine prochaine, Mourad.
Oui, avec grand plaisir.
Et Félat, on n'a pas eu l'occasion de le dire. Félat est kurde. Il est à Orléans, il est en, en études de français en ce moment. Il va repasser aussi dans l'émission. On salue l'arrivée de Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Et Victor est accompagné.
Alors, oui.
Bonjour, bonjour l'inconnu.
Bonjour Manuel.
Salut Manuel, bienvenue.
Merci.
Tu nous écoutais avant ou pas? C'est la première fois.
Non, bah, il habite en Isère, donc c'est un petit peu compliqué.
Bon, ben, voilà. Bienvenue à Radio Campus.
Merci.
Dans un instant, Asma, tu es prête? On va parler de... Oui, non, tu voulais avoir une réaction, Victor.
Oui. La réaction... Par rapport, alors pour ceux qui ne l'ont pas forcément capté, le mot de Voltaire, c'est je hais ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire.
C'est ça, c'est pas vrai.
Alors, déjà, y a des doutes vis-à-vis de la véracité de cette affirmation, mais surtout, Voltaire n'a jamais connu la Seconde Guerre mondiale. Voltaire n'a jamais connu la montée de l'extrême droite qui pousse quand même au gazage de centaines, de milliers de personnes, voire de millions. Et voilà, il s'est
peut-être. Tu le vois comme ça, toi. C'est un bel angle, ça.
Oui, enfin, il s'est pas rendu compte, je pense, à son époque. Des paroles comme ça pouvaient être interprétées. Mais c'est comme la phrase de... Maintenant, c'est une phrase qui est régulièrement prise par l'extrême droite, la phrase de Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais
oui,
pas avec
absolument,
tout le monde.
Oui.
Mais en fait, ils n'ont jamais compris cette phrase, parce que justement, ce qu'il disait, c'est qu'on ne peut pas rire de tout, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, c'est-à-dire que dans ce qu'il dit dans son sketch, c'est qu'on ne peut pas rire de la misère et du racisme et de choses comme ça avec des gens d'extrême droite.
C'est ça.
Mais voilà. Et puis, pour revenir à un dernier petit encart sur Fanny Picard, c'est bien beau, hein, le côté, voilà, on est en démocratie, il faut laisser l'extrême droite s'exprimer parce qu'on la combat sur le terrain des idées et tout. Faut jamais oublier quand même que dès qu'on laisse un petit peu, enfin voilà, c'est le fascisme, c'est la gangrène, on l'élimine ou on en crève. Et laisser la parole à l'extrême droite, c'est toujours porter le risque. Alors, sans doute que pour elle, il n'y en a pas beaucoup. Pour Fanny Picard, il n'y a pas beaucoup de risques si jamais l'extrême droite monte. Mais voilà, faut quand même se rappeler que c'est quand même des gens qui sont antisémites, racistes, contre les pauvres, etc.
Mais j'ai pas diffusé l'extrait de Florent Montillot dont on a parlé avec Mourad, mais il dit dans son intervention, l'extrême droite est au Parlement. Voilà, et c'est vrai.
Oui, bien sûr.
Mais... Alors qu'est-ce qu'on fait?
C'est pas pour ça qu'on doit. Enfin, partout c'est possible, il faut combattre l'extrême droite, et partout c'est possible, il faut leur empêcher d'avoir la parole. C'est aussi simple que ça.
Alors, un point de scientifique, hein. Tous ceux qui disent que cette phrase est de Voltaire. Alors, il paraît qu'il se serait adressé, c'est ce que disent les gens qui disent qu'il l'a dit, il se serait adressé à l'abbé Le Riche en ces termes. Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire. L'existence de cette missive est avérée, la phrase n'y figure pas. C'est tout. Allez, un peu de musique et on en vient à toi, Asma. De la musique avec cette voix. Ah non, mais attendez, on va la remettre au début. Je sais pas, vous l'avez pas reconnu?
Non.
Parce que si je te dis Beth Gibbons.
Ah, si.
La chanteuse
on en parlait
mythique,
avant.
Ouais. Du mythique groupe Portishead. Elle sort un album solo qui s'appellera Floating on a Moment. Voici Reaching Out.
Yeah.
Gibbons avec cette voix magique. À l'instant, Reaching Out dans À Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours.
À Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
Nicolas Philibert, donc Asma.
Nicolas Philibert.
Réalisateur, tu disais. Moi, j'ai vu qu'une seule chose de lui, c'est la moindre chose.
La moindre des choses.
C'est la moindre des choses.
En 96.
Ah, c'est 96.
C'est son premier documentaire sur la psychiatrie.
Absolument.
Le tout premier.
Et il en a fait d'autres.
Il en a fait beaucoup d'autres. Il est resté sur le sujet. À ce moment-là, d'ailleurs, il avait dit qu'il avait hésité à faire la moindre des choses, que beaucoup de gens l'avaient poussé, parce qu'il avait l'impression d'être un voyeur, d'aller filmer misère, d'aller filmer la maladie.
Mais oui, mais enfin, ça te cloue, quoi. Tu l'as vu, Victor, ou pas?
La moindre des choses.
C'est facile à trouver.
Mais j'irai le regarder, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur.
Vraiment. Et ben, il a deux films en ce moment, au Carme, et Asma nous en parle.
Voilà, donc Nicolas Philibert est un documentariste. Il a fait déjà plusieurs films sur la psychiatrie. Et actuellement, il y a Averroès et Rosa Parks, et La machine à écrire et autres sources de tracas. Donc ces deux documentaires sont actuellement en salle. Averroès et Rosa Parks, c'est le nom tout simplement des unités de l'hôpital Esquirol, dans le Val-de-Marne, où il a été filmé. Et La machine à écrire et autres sources de tracas, en revanche, c'est un titre qui fait un clin d'œil sur ce qui se passe dans le film. C'est les soignants qui vont directement chez les patients, qui les assistent dans leur vie domestique, qui interviennent dès que les patients ont un problème pour réparer la lumière, l'électricité et tous ces problèmes domestiques qui les dépassent complètement et qui deviennent une catastrophe, qui menacent vraiment de faire surgir une catastrophe chez le patient qui n'arrive pas à gérer ça tout seul. Donc Nicolas Philibert avait déjà filmé deux documentaires, notamment sur l'Adamant, qui avait été beaucoup remarqué, récompensé d'un Ours d'Or à Berlin, et un autre film également, donc La moindre des choses. Et l'œuvre de Nicolas Philibert, donc, ça baigne vraiment dans l'univers de la psychiatrie. Dans Averroès et Rosa Parks, ce sont des entretiens qu'on voit avec les soignants, qu'on voit à l'écran. On observe leur quotidien, on entend leurs déclarations, leur quotidien, leurs confidences, on les voit rire, on entend leurs peurs, leurs réflexions. C'est souvent très philosophique et psychanalytique. On les voit échanger principalement donc avec le personnel soignant, qui devient finalement les principaux interlocuteurs de ces gens. Et la caméra est prise à témoin dans ces confidences extrêmement intimes. C'est très silencieux et intimiste. Et le silence et les murs blancs rappellent à quel point, finalement, ils sont loin de la ville. Ça paraît, c'est presque une dimension extérieure à la société et à ce qu'on serait tenté, nous, d'appeler la vraie vie. Donc on les écoute et souvent on les comprend. Et c'est pas dur de les comprendre. Ces gens qu'on appelle malades. Et Nicolas Philibert, il le dit très bien lui-même, il dit « Le noyau de leur souffrance, c'est que ce sont des gens qui ont une très grande intuition du réel, une très grande porosité de ce qui les entoure. Ils en savent beaucoup trop sur le réel, sur la violence, sur le cru, sur tout ce qui est dur. Et je ne savais pas qu'on parlerait aujourd'hui de l'extrême droite, mais je viens de penser le parallèle. Ça me rappelle ce que disait Jacques Lacan, grand psychanalyste, après Freud, enseigné principalement à l'université. Lacan, il disait, le réel, c'est ce qui est fracte, c'est ce qui cogne, c'est ce qui est cru à l'état brut. Et c'est à partir de ce constat qu'il a travaillé sur l'intrication, ce qui structure un bon névrosé, bien ordinaire, bien socialement intégrable. Ça serait l'intrication entre le réel, l'imaginaire et le symbolique. Et Lacan, il a compris que ce qui manque au psychotique, c'est le symbolique. C'est l'aptitude à faire du symbole, de la communauté, du commun. Une société peut-être ensemble. Ça, c'est un petit clin d'œil à l'extrême droite. Donc, c'est ce qui leur manque à l'édulcorant. Ils n'ont pas matière à édulcorer, à diluer la violence du réel, la pulsion, la haine, la meurtrialité, la destructivité qu'on a tous d'ailleurs en nous. Donc ces malades-là, ils souffrent d'être sans défense face au réel. Donc ils sont ultra protégés dans ces centres, très à l'écart de la société. Et il y a donc, dans ces films de Nicolas Philibert, ça soulève la grande question, parce qu'on les comprend, on est même en très grande empathie avec eux. Donc comment communiquer avec eux, comment parler, comment les entendre, comment leur faire une place dans la société, comment ne plus avoir peur d'eux. Et dans ces documentaires, on voit combien c'est très flexible. La diversité du spectre de la maladie mentale, ça va de la très grande anxieuse au délire mystique. Et on voit que tout est ouvert, tout est possible. Et c'est passionnant de voir comment les soignants, ils cherchent à faire un travail extrêmement minutieux. Ils marchent sur un fil pour contenir la folie, pour lui donner un sens, pour la faire aller ailleurs que dans un délire. Donc ces documentaires, ils font écho à ce qu'un grand psychiatre, Paul-Claude Racamier, Je ne sais pas si vous connaissez. Il est un peu moins connu. Il a beaucoup travaillé sur la psychose, sur la perversion. Et c'est là que j'ai pensé au petit parallèle de votre sujet précédent. Il disait « La psychose, ce n'est pas la vraie folie. Le délire, c'est une tentative de rétablir une réalité, une néo-réalité. Il y a une résistance dans la fabrication du délire. » Et peut-être que Rakami aurait plus placé la folie dans la folie meurtrielle. Parler de meurtrialité, d'équivalent meurtrier. On ne tue pas, mais c'est un équivalent de passer à l'acte dans la destruction de l'autre. Voilà, donc en ce moment, il y a ces deux documentaires, Averroès et Rosa Parks, La machine à écrire et autres sources de tracas qui passent en salle. Et on peut aussi revoir donc, Sur l'Adamant et La moindre des choses, voilà, qui sont deux documentaires de Nicolas Philibert qui filment cette espèce de galaxie psychiatrique qui nous renseigne, nous, sur ce que c'est que la normalité, ce que c'est que la folie et ce que c'est que l'être humain, finalement, au sens scientifique.
Merci de nous avoir fait découvrir, enfin pour certains, ce magnifique scénariste. Et alors, en tout cas, la machine à écrire, ça sort officiellement demain, mais c'est déjà visible au cinéma Les Karmas à Orléans. La prochaine diffusion, c'est demain.
Oui, demain. Oui.
À 15h50, pour ceux qui ne travaillent pas. Donc voilà. Mais alors, j'espère qu'il nous écoute au Carme. Ça serait bien de le faire venir, Nicolas Philibert. J'ai vu des vidéos de lui. Il est passionnant.
Ouais, il est vraiment passionnant.
Le film que j'ai vu. Ouais. On ira ensemble avec Victor, forcément. Deux, trois choses. Allez, pas tout de suite. On va passer à la région centre.
À bâton rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Donc, je vous disais, en début d'émission, les élus sont en session plénière. Ça s'appelle comme ça. Jeudi prochain, ils vont parler notamment d'aménagement équilibré du territoire, d'économie de proximité, de formation professionnelle, de plan régional, de mobilité à vélo. Ça va être intéressant. On va y aller.
Ouh, oui. Le vélo.
Mais oui. Non, mais la région centre est la première région en vélo touristique.
Ah bon ?
Oui, absolument.
Avec la Loire à vélo.
Absolument.
Et... Ah,
ça fait des années
qu'ils
font ça. Oui, oui. Et là, il va y avoir de vélo de tous les jours, ils disent, avec des aides pour le vélo électrique. Tout ça sera en discussion. Mais ils vont évidemment parler de la santé. La région est une des dernières aussi en termes de... Alors, Manuel, hein,
c'est ça, ouais.
Tu viens de l'Isère.
Oui, de Grenoble, ouais.
Alors,
on peut dire, ouais.
Des médecins partout là-bas.
Des
pas trop de problème.
Beaucoup de vélos aussi. Non, ça
oui,
va.
De vélos, c'est clair.
Ça va.
Ouais, ça va à vous.
Hein, ouais, on est bien.
Mais ici, on peine à voir. Et là, la région va signer un accord avec Médecins Solidaires. Je ne les connaissais pas, vraiment. Ce sont des médecins qui sont ou retraités ou qui ont moins d'activité que d'autres, qui s'installent dans des territoires où il manque de médecins généralistes. Un accord tout à fait officiel va être signé pour que tous les 6 départements de la région centre bénéficient de plus de médecins généralistes. J'ai tendu le micro à François Bonneau pour qu'il nous explique qui sont ces médecins. Alors, attendez.
C'est une structure qui s'appelle Bouge ton corps, qui rencontre...
Comme d'hab, il faut toujours qu'il y ait des pains techniques. C'est M. Hassan. Allez, François Bonneau, maintenant.
Médecins solidaires, c'est au départ une structure qui s'appelle Bouge ton coq, qui rencontre une autre structure, Médecins solidaires. Médecins solidaires, ce sont des femmes et des hommes, pour l'essentiel des médecins, qui se disent que ça n'est pas possible aujourd'hui que, notamment dans la ruralité, on puisse avoir des habitants qui ne peuvent plus avoir accès à un médecin, qui se sentent exclus, rejetés, alors qu'il y a 20 ans, on décrivait le système français, le système de soins français, comme le meilleur du monde. Ça n'est pas possible de laisser des gens développer des maladies qui vont devenir des maladies graves, parce que les gens n'ont pas accès à un diagnostic. Et donc, cette prise de conscience a amené une association, Médecins Solidaires, à se dire, il faut tout faire, tout tenter, et ne pas abandonner la ruralité. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils développent un projet qui est le suivant. Ils s'engagent sur plusieurs années à ce que, du 1er janvier au 31 décembre, sur un lieu en ruralité où il n'y a pas de médecin, on puisse avoir du lundi matin au samedi midi, on puisse avoir un médecin présent qui va accueillir au rythme d'une consultation toutes les 20 minutes, qui va accueillir des gens qui n'avaient plus accès au médecin. Ce médecin, c'est un médecin solidaire. C'est un médecin remplaçant qui choisit de donner une semaine au minimum dans l'année pour aider un territoire. C'est un médecin qui travaille en libéral mais qui se dit...
Nom d'un chien, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont pas soignés. De manière solidaire, je m'engage dans cette association et je vais donner une semaine dans mon année, semaine minimum dans mon année, pour un territoire. Ce sont des médecins retraités qui ont encore la maîtrise de leur art et qui se disent on est retraité, mais aller donner un coup de main à un territoire en réalité dans lequel il n'y a plus personne, ça vaut le coup. Et donc cette association, elle organise le service de ces médecins en les renouvelant chaque semaine et en faisant en sorte que la continuité soit assurée. La continuité, elle est assurée parce qu'il y a une secrétaire médicale qui est sur place, qui suit les dossiers, qui alerte, etc., qui organise le travail. Cette continuité, elle est assurée parce qu'il y a une collectivité territoriale qui souvent, avec l'aide de la région, a aménagé des locaux, qui sont des locaux pour installer le cabinet. Et cet engagement, il est possible parce que, notamment la première année, pour la montée en puissance, il y a des financements publics qui sont mobilisés. Première opération au Centre-Val de Loire, c'est Charenton-du-Cher. Charenton-du-Cher, ça a ouvert il y a 2 semaines, soutien de l'État, soutien de l'ARS, soutien de la région, soutien de la MSA, engagement des collectivités territoriales, engagement du département, tout le monde y est allé. À partir de ça, j'ai demandé à Médecins Solidaires que nous puissions avoir une implantation par département. Oh, il en faudrait beaucoup plus, mais faisons déjà ça et c'est important. Faisons ça en plus des MSP, faisons ça en plus des centres de santé du GIP Pro Santé que nous continuons à développer. Faisons cela. Et on a travaillé avec l'État, travaillé avec l'ARS, travaillé avec la Mutualité Sociale Agricole. On a trouvé l'accord. Cette année, il y aura 2 centres de santé Médecins Solidaires en Centre-Val de Loire. Le premier, ce sera le Cher. Le deuxième, on va le définir avec l'association et avec les autorités de l'État sur le lieu d'implantation. En 2025, 2 centres. Et en 2026, 2 centres. Et nous engageons à travers ces délibérations, puis la convention qu'on a signée avec l'État et l'ARS, nous engageons, et avec Médecins Solidaires, bien évidemment, ce sera la première région à développer sur l'ensemble de son territoire une réponse. Jusqu'à maintenant, Médecins Solidaires a beaucoup travaillé. Il y a 2 implantations sur la Creuse à l'échelle de département. Ils n'ont pas travaillé avec une région et ils ont trouvé que c'était particulièrement intéressant. Charenton-du-Cher, qui a ouvert il y a quelques jours maintenant, il y a eu 400 appels téléphoniques le premier jour. 400 appels téléphoniques le premier jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont touché du doigt cette désespérance des territoires ruraux. Ils ont touché du doigt les conséquences de ce qui est vécu par les gens comme un abandon. Et donc, moi, je me bats avec les maisons de santé, on en a fait 120 et on continue. Je me bats avec le GIP Pro Santé, on a 15 centres de santé financés par la région avec l'aide de la collectivité d'implantation. Et on va continuer, il y a 50 médecins qui travaillent là-dedans. On apporte un nouveau maillon à la chaîne de solidarité avec ça, et je suis très, très heureux que ce soit, qu'on ait réussi à faire la convergence des volontés, État, collectivité territoriale, région, la convergence MSA, la convergence des volontés pour finalement être dans une... C'est une vraie innovation, c'est le principe de solidarité qui guide ces médecins. Prendre une semaine pour venir aider de cette manière sur un territoire, je trouve ça remarquable. On a souvent l'impression que le système de santé est saturé, que ceux et celles qui portent ce métier sont indifférents. C'est tout le contraire. Ce sont des femmes et des hommes passionnés suffisamment, vous vous rendez compte, pour prendre une semaine et dire « je vais me mettre au service de ceux qui n'ont rien ».
Des gens admirables, je vous disais, ils ne font pas ça pour de l'argent. Un médecin qui ne fait pas ça pour l'argent, vous voyez, vous croyez ça? Alors jeudi, j'y serai avec un micro, j'ai envie de les rencontrer.
Ah bah écoute, si jamais t'es, moi oui. Je suis dispo aussi, hein, ouais. Si jamais t'as envie d'avoir ça un
marche,
assistant.
Ça marche, pour l'instant ça marche, enfin ça marche en Creuse, ça c'était lancé dans le Cher et bientôt un peu partout pour essayer d'avoir de la santé. Alors la région centre, ils disent santé pour tous, partout. En tout cas, ils se battent, les élus se battent, hein, et puis ça transcende les
clivages politiques traditionnels. Oui, tout le monde de la droite à l'extrême gauche, hein, on est...
La droite traditionnelle, faut dire, moi, parce que généralement...
La droite conservatrice, dit conservateur. Oui. Moi, j'aime bien le mot conservateur.
non, parce que même sur ces... Alors, ça existe également, hein, les débats à la région, comme pour la ville. Vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre ça en direct. Ça démarre à 9h jeudi prochain. Et j'allais te dire, même sur ces questions-là, il y en a toujours qui font les malins, c'est qui? Le Rassemblement National. Alors je vais y aller. Est-ce que je leur tends le micro?
Non.
Ah là, abattant.
Oh, ça peut être bien, moi, je trouve, de les faire parler.
Je les ai déjà fait parler. Non, mais c'était par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais abattant rompu, pour finir, Steven est allé à voir une pièce sur Gisèle Halimi. Vous connaissez Gisèle Halimi, cette avocate d'origine tunisienne, mm-hmm. qui s'est battue pour des tas de choses, notamment le droit à l'avortement, qui a défendu des activistes politiques pendant la guerre d'Algérie. Une pièce avait lieu à Orléans, c'était vendredi, je crois, dernier, organisée par le Forum des droits humains du Loiret, avec Marie Ragul de la compagnie d'ouvrage qui incarne l'avocate. Steven, aujourd'hui, il est en train d'écouter Lélia Véron. De la semaine prochaine, on entendra une interview de Lélia Véron grâce à Steven, mais il a laissé ceci avant de partir.
Bonsoir auditeurs et auditrices. Alors, à l'heure à laquelle vous écoutez cette chronique, moi je suis au temps moderne pour capter la conférence de Laila Véron sur les transfuges de classe, mais ça c'est une autre histoire dont je vous parlerai la semaine prochaine. Aujourd'hui je voulais vous parler théâtre et d'une femme dont le nom vous dit sûrement quelque chose, hein, Gisèle Halimi, avocate insoumise au patriarcat tunisien, engagée dans la guerre d'Algérie auprès des combattants de la liberté, et figure de la lutte pour les droits des femmes qui a notamment contribué à la légalisation de l'IVG et à la criminalisation du viol. Non, il n'y a pas de thématique hein, quand je vais au théâtre. Hein. Donc effectivement, vendredi 12 avril à la Maison des Arts et de la Musique d'Orléans, à l'occasion de la 21e édition du Forum des Droits Humains, la compagnie de théâtre L'Ouvrage est revenue à Orléans pour jouer un spectacle intitulé « Gisèle Halimi, défendre ». À l'issue de cette pièce, j'ai pu m'entretenir avec la comédienne Marie Ragu, la metteuse en scène Alice Guéguéron et la conseillère Virginie Dodin. Et je suis allé leur demander comment s'est construit ce spectacle.
Non, au moment de la disparition de Gisèle Halimi, donc moi je dirige une institution dédiée à l'histoire de la résistance, qui est l'équivalent du CERCIL dans sa forme, que vous connaissez bien à Orléans, et à la défense des droits humains. Et l'annonce du décès de Gisèle Halimi, comme on a une longue histoire de travail avec Alice, j'appelle Alice immédiatement en lui disant « Gisèle Halimi est décédée, on fait quelque chose ». Officiellement, je ne suis pas au courant qu'elle accepte. Mais parce qu'à ce moment-là, Alice appelle Marie pour lui faire part de l'annonce de sa disparition et en même temps lui dit « on fait quelque chose ». Et l'aventure a commencé comme ça.
Une aventure qui dure maintenant depuis 3 ans et qui aura permis de transmettre les textes et les paroles de Gisèle Halimi, puisque toutes les lignes de la représentation sont celles de Gisèle Halimi elle-même.
Donc c'est un spectacle qui s'est fait très rapidement, entre deux confinements, au moment où les théâtres sont fermés, au moment où les structures culturelles sont fermées, et où justement cette nécessité de continuer de faire vivre la parole de Gisèle Halimi, ça nous apparaît comme essentiel. Ça nous booste aussi dans ce marasme de 2020. Et effectivement, à ce moment-là, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Ça pourrait être une soirée hommage et s'arrêter là. Puis rapidement, quand on a une comédienne comme Marie Ragu, on se dit que non, on va faire un spectacle. Et puis très vite, on sait que ce spectacle, on veut qu'il circule auprès de tout le monde. Justement auprès de ceux qui ont connu, mais surtout aussi auprès de ceux qui n'ont pas connu son parcours, ses combats. Et que le débat reste vivant. D'où le choix aussi de ne travailler donc qu'avec ses textes, qu'avec sa parole. Alors effectivement, à la compagnie L'Ouvrage, moi je travaille toujours ce travail du montage des écritures. Mais c'est un spectacle qui en effet s'est fait pas du tout dans les règles des productions de spectacles vivants ordinaires, liées à ce contexte, liées à cette envie très spontanée. Et donc c'est un spectacle qui s'est fait très rapidement, avec uniquement la coproduction donc de la compagnie L'Ouvrage et du Centre Régional Résistance et Liberté, à Thouars. Et on a travaillé d'abord en petite équipe à 3, puis avec la régisseuse, puis avec la scénographe. Et voilà, donc on est 5 petits bouts de femmes à s'être dit, on y va. Et il se trouve qu'en dehors de toute réflexion stratégique, ce spectacle trouve un écho formidable, parce que ça fait 3 ans que ça tourne dans les lycées, dans les centres sociaux, dans les théâtres, dans les tribunaux, et voilà, sur des journées aussi militantes avec des associations, avec des journées nationales. Donc on voit comment il peut servir d'outil pédagogique, de levier de militantisme, et puis d'objet artistique.
Une vraie source d'inspiration, mais aussi un véritable documentaire, puisque la pièce revient sur les trois affaires les plus médiatisées que Gisèle Halimi ait plaidées. Sa méthode, c'était de médiatiser une cause, faire d'un procès une cause, transformer sa plaidoirie en tribune politique et médiatique. Accuser la loi plutôt que de se faire accuser par elle, disait-elle. Un sacré défi hein, que de résumer la vie de Gisèle Halimi en une heure. Hein.
Oui, le premier montage, le premier amas de matériaux, on faisait un spectacle de 2h30 potentiellement, donc il fallait évidemment limiter tout ça et le rendre digeste. Et c'était assez évident qu'il fallait quand même se recentrer sur ces trois affaires principales, l'affaire de Djamila Boupacha pendant la guerre d'Algérie, le procès de Bobigny sur l'avortement et le procès d'Aix-en-Provence sur le viol, parce que ce sont les trois affaires qui ont été les plus emblématiques, les plus médiatisées et qui faisaient écho aussi bien à des changements importants de la société à l'époque et au combat et à ce qui se passe aujourd'hui. Après, ce qu'on a aussi beaucoup tricoté dans le montage, dans l'interprétation, et je crois ce qui nous touche et ce qui, à mes yeux, est aussi un levier pour parler à tout le monde, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle a défendu, c'est aussi ce parcours d'émancipation d'une femme qui vient d'un milieu extrêmement modeste, voire pauvre, qui n'était absolument pas destinée à devenir cette grande avocate médiatique bourgeoise et reconnue et connue. Mais c'était une petite fille qui n'avait pas le droit à l'éducation, qui s'est battue pour continuer des études, qui a refusé un mariage arrangé, qui a refusé de servir ses frères. Et ce parcours-là, je crois aussi que c'est ce qui peut toucher beaucoup de gens, de se dire en effet, personne n'est prédestiné et que si on veut dire non, eh ben on peut dire non. Comme elle dit au magistrat, non, je dis non.
Exactement, on peut dire non. Non, Orléans, on ne peut pas accueillir une pièce de Gisèle Halimi et la même semaine autoriser une conférence de l'extrême droite à la médiathèque. Vous auriez pu dire non aux fachos. Enfin bon, continuons. La représentation s'est suivie d'une discussion avec le public. Et en grand rabat-joie, j'ai noté qu'un mot avait été totalement absent des débats. Ce mot, c'est la colonisation.
Ça dépend des salles, ça dépend des publics. Ça dépend des publics. Il y a des salles où la question de la décolonisation et de la guerre d'Algérie va être un point central parce que ça anime un certain nombre de spectateurs qui sont dans la salle. D'autres fois, comme ce soir, où ça va être davantage la question de la jeunesse, de son engagement et du droit des femmes. C'est très variable.
Je crois aussi que, notamment au moment de sa disparition, les portraits synthétiques qui étaient dressés sur Gisèle Halimi, en tout cas de ce côté-là de la Méditerranée, étaient essentiellement l'avocate des droits des femmes. Ce n'est pas le même regard de l'autre côté de la Méditerranée, où c'est l'avocate de la décolonisation. Et qu'on regarde aussi l'histoire qui nous convient. Et que, évidemment, la décolonisation, et notamment la guerre d'Algérie, c'est le passé qui ne passe pas.
Ah ça, pour ne pas passer, chacun garde ce qu'il veut de Gisèle Halimi. Hein. Pour la France, accepter Gisèle Halimi, avocat du mouvement d'indépendance de l'Algérie, c'est aussi accepter son histoire coloniale, un passé avec lequel elle n'est toujours pas en phase. Et tant que l'histoire coloniale et raciste de la France ne sera pas assumée, Gisèle Halimi ne sera pas reconnue dans sa globalité comme une femme à l'intersectionnalité des luttes. Pendant ce débat partiel, s'est posée la question des jeunes et de leur capacité à faire ce que Halimi faisait. C'est vraiment une question de vieux. Vous savez, avec en fond de cloche, hein, le « c'était mieux avant ». Avant, le viol, c'était un délit aussi. Hein. Et avant, on trouvait Madonna cool. Donc bon, hein, c'est relatif. On ne le dira jamais assez, mais les jeunes luttent, évidemment. Mais pas comme les vieux, en fait. Hein, les sujets ne sont pas non plus nécessairement les mêmes. Pourtant, à bien y regarder, la méthode reste la même.
Alors, je pense que tout militant, jeune ou moins jeune, pose indirectement cette question-là. Quand on veut faire évoluer une société qui est régie par des lois, la question de dire que la loi est mauvaise, c'est quelque chose qui est dit. Je pense en ça au mouvement de lutte pour la protection du climat, qui est un thème dont la jeunesse s'empare aujourd'hui, qui affirme sans le dire clairement que ce sont les lois qui sont mauvaises ou des lois qui sont manquantes pour changer notre rapport au climat, à l'environnement. Donc je Après, Gisèle Halimi, on est dans un contexte particulier. Là, on l'entend déclamer cette phrase dans un contexte de plaidoirie, de tribunal. Donc on est dans un contexte spécifique, mais je pense que la question de la remise en cause de la loi, elle est au cœur de toutes les luttes, en fait.
Les injustices d'hier comme celles d'aujourd'hui ont été injustes. Le colonialisme et le patriarcat ont pavé l'histoire de l'Occident et de la France, un passé qui a un impact sur notre présent. Les thèmes que Gisèle Halimi défendait sont des thèmes qui résonnent encore aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Je vous invite à vous rendre sur le site de la Rédac Pop d'ici la fin de la semaine pour retrouver l'intégralité de l'interview, mais aussi le débat et des extraits de la pièce. Sachez que l'édition du Forum des droits humains n'est pas terminée. Cette année, le thème de cette édition, c'est « La paix, ça se cultive ». Et le prochain rendez-vous, c'est le 1er juin, et ils parleront du partage de l'eau.
Merci Steven. La Rédac Pop, oui, allez-y. Les derniers articles, c'est sur la colère des antifascistes orléanais. On y revient. Contre une conférence de presse, c'était la dernière fois, il a fait un reportage là-dessus. Il y a aussi un beau reportage sur l'événement au 108, il n'y a pas si longtemps, c'était vendredi 5 et samedi 6 avril. Xul, ça s'appelle. Il y parle d'intelligence artificielle, de vêtements africains. Il y a eu un truc là-dessus, des dragues. Et 14e édition de Xul, hein, c'était la Rédac Pop, c'est le média citoyen et participatif de Radio Campus Orléans. Abattant Campus est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec
moi. Merci à toi, Hassan.
Vous revenez la semaine prochaine si vous êtes disponible. Tout ça. On va laisser la place à Raidon. Ils sont prêts là, ils sont chauds.
Ouais, non presque.
Ils sont presque. Ils sont chauds. Ouais, j'ai le temps de passer à un truc qui va vous plaire, les gens. Patrice, vous connaissez Patrice, l'artiste anglais. Sur son dernier album, il est allemand. Ben heureusement que j'ai des gens qui font du reggae, tout ça, qui connaissent et qui savent lire surtout. Et qui savent lire Wikipédia, tout ça. Donc, sur son dernier album, c'est en 2022, il reprend ses plus grands morceaux. Et puis, il reprend ce morceau-ci des Beach Boys. Good Vibration, ça s'appelle. Passez une belle semaine et revenez ici, mardi. À 19h. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume.
Raidon. Selecta G. Burn them song. Petite Mairie. Merci Hassan, Maton Rompu. Son équipe. Fidèle au poste. Et il est 20h là, mon G. Raidon. C'est parti. 20h, 22h. Le Positive Airy et le Bandem Sound. Attends. Décidément. Fidèle à nous-mêmes, même quand on est à l'heure. Raidon!
Oh nana oi! Ernst & Young Massive, tous les massifs sur la supra, watch this!
C'est parti!
Radio Campus Orléans, you see me? Émission Raidon, now hear this!
Yeah man, I'm the African royalty, I'm right to number one to represent and big up the big bad Radio Campus Orléans.
Now this is a real champion radio station.